Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone et comme toutes les semaines, Françoise Verna pour nous présenter la une de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est bien sûr l'hebdomadaire d'Occitanie que vous pouvez retrouver en kiosque ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, pour cette semaine, quels sont les gros titres de cette nouvelle édition de la Marseillaise ?
Alors, nous avons consacré notre dossier de la semaine à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la zone à faible émission, la ZFE. Alors c'est un terme, un acronyme un peu barbare, on va dire. Mais l'objectif, c'est de mettre en œuvre par étapes des restrictions de circulation des véhicules les plus polluants. Mmh. Alors évidemment, cela pose problème fondamentalement, car ce sont les plus modestes qui risquent d'être fortement pénalisés. Donc on explique comment et pourquoi ça va se passer,
oui,
dans notre dossier de plusieurs pages qui rentrent dans tous les détails. Ensuite, nous avons un autre sujet très intéressant. Nous avons rencontré le directeur du Centre international de l'UNESCO sur l'eau, dont mmh. le siège est à Montpellier. C'est Éric Servat. Nous l'avons interrogé sur la situation de la ressource en eau dans notre région après de nombreux arrêtés préfectoraux qui en limitent l'usage.
D'accord.
Toujours à Montpellier, nous revenons sur la situation de familles syriennes. Ce sont 17 personnes, dont une grande majorité d'enfants. Ce sont des réfugiés qui sont malheureusement installés depuis 3 ans dans un bidonville qui est en bordure du quartier de la Mousson et qui sont menacés d'expulsion. Il y a une médiation qui est en train de se faire avec la ville. Une pétition a été lancée et il y a une audience importante au tribunal le 7 juillet. Et sur le plan politique, en fait, nous avons eu l'idée d'aller à la rencontre d'une personnalité dans le cadre de notre grand entretien.
Oui.
Et ce vendredi, nous proposons de rencontrer Stéphane Rossignol, qui est le maire LR de la Grande Motte. Bon, évidemment, c'est l'occasion d'évoquer avec lui des enjeux pour la cité balnéaire, mais aussi son analyse après les résultats des élections législatives. Alors, dans un tout autre registre, nous avons aussi une rencontre avec l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, qui nous a fait l'amitié de nous accorder un entretien. Alors, où on va évoquer avec lui deux événements qui sont dans son actualité. Il y a le festival de la Route des Vannes, dans les vignobles de l'Hérault, mais aussi du Gard et des Bouches-du-Rhône. Et il va aussi nous parler de son propre festival, puisqu'il n'est pas très loin, il n'est pas très loin de l'Hérault, il est dans les Cévennes, à Anduze, où il vit depuis 5 ans. Et pour boucler la boucle, nous avons parlé de la sécheresse avec la ressource en eau, mais il y a aussi un autre phénomène très inquiétant qui est lié au changement climatique et qui s'accentue, ce sont les épisodes de grêle. Eh bien, il y a des solutions. Il y a les vignerons de la Haussée d'Irak, dans le Gard, qui se sont organisés pour installer 3 générateurs anti-grêle. Alors, cela protège les vignes et dans un secteur à peu près de 5 km, mais aussi les habitations. Voilà l'essentiel de notre contenu à paraître ce vendredi.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Le dossier de la semaine pour cette nouvelle édition de la Marseillaise concerne la mise en œuvre des restrictions de circulation des véhicules polluants dans les 11 des 31 communes de la métropole. Alors on sait que la plupart des gens sont vent debout sur ces nouvelles restrictions, que ça va pénaliser bien sûr les moins riches. Comment ça va se passer, Françoise ?
Alors, nous avons fait ce dossier justement parce que, bon, il est d'une très brûlante actualité, puisque la première étape de la mise en œuvre de la zone à faible émission, c'est le 1er juillet, donc c'est vendredi.
Oui.
Donc, ça concerne dans un premier temps 11 communes sur 31, dont la ville centre Montpellier. La métropole, c'est de la responsabilité de la métropole, présidée par le maire de Montpellier, Michael Delafosse. C'est une obligation de la loi, une loi qui a été votée en 2021, qui oblige une trentaine de métropoles en France à limiter l'accès des véhicules polluants avec l'obligation de mettre sur son pare-brise ou sur son deux roues ou sa petite camionnette une vignette critère R. Mmh. Voilà, critère, avec ça va de 1 à 5, et il y en a qui sont hors catégorie. Mmh. Alors nous avons évidemment expliqué, nous expliquons tout ça dans notre dossier, nous avons l'interview de Julie Fraîche, qui est la vice-présidente déléguée au transport de la métropole, qui explique la stratégie, elle revient sur la stratégie, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de réduire de 75% les émissions d'oxyde d'azote et de 25% les particules fines.
Oui.
Il faut savoir que 89% de ces émissions sont directement la conséquence du trafic routier.
Mmh.
Donc, mais la métropole a énormément concerté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place des dérogations locales. C'est-à-dire qu'il y a une obligation nationale, et mais la collectivité qui est la responsabilité de mettre en place cette zone à faible émission, cette ZFE, a la possibilité de mettre des dérogations. Donc, les dérogations, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, tout ce qui est desserte de parking relais,
oui,
les parkings qui sont à proximité d'un tramway,
oui,
il y en a 9 dans la métropole, les personnes pourront aller garer leur voiture et donc continuer à venir à Montpellier en voiture et utiliser après dans la ville les transports collectifs. Donc ça, c'est une première dérogation.
Mmh.
Il y a une autre dérogation très importante, c'est ce qu'on appelle la dérogation petit rouleur. Alors, la dérogation petit rouleur, c'est par exemple la personne qui va utiliser son véhicule du matin au soir et qui peut utiliser ce qu'on appelle le report modal, aller prendre un transport collectif.
Mmh.
Donc c'est à la fois, d'après la métropole, le calcul, c'est que c'est à la fois bon pour la protection de l'environnement et aussi le pouvoir d'achat. Donc les personnes, il faut qu'elles aient une attestation d'assurance de moins de 8000 km.
D'accord.
Et donc, les personnes vont pouvoir circuler avec une voiture dont la vignette est concernée par l'interdiction progressive.
Mmh.
Donc tout ça va se mettre en place progressivement. Il n'empêche que ça soulève quand même un problème de fond, et vous l'avez dit, sur les habitants et les ménages les plus modestes.
Eh oui.
Donc on donne la parole aussi à un adjoint à la mairie de Montpellier qui fait partie de la majorité,
oui,
c'est Hervé Martin, qui est adjoint au sport, qui est président du groupe communiste à la mairie de Montpellier et qui siège aussi dans la majorité de la métropole, et qui dit que c'est vraiment une loi antisociale qui fait payer aux plus pauvres la transition écologique. Donc, bien évidemment, le groupe communiste s'est abstenu. Il s'est abstenu pourquoi ? Il n'a pas voté contre, parce que justement, il y a ces dérogations et parce qu'il y a la volonté politique de la métropole d'accentuer le développement des transports collectifs,
mmh,
et la gratuité.
Oui.
Donc, il y a des efforts qui sont faits de la part de la collectivité. Donc, il nous explique que voter contre la mesure n'aurait pas de sens, puisqu'il y a la volonté de la collectivité de vraiment travailler à des véritables alternatives.
Mmh.
Il n'empêche qu'on donne tous les termes du débat, toutes les informations pratiques, mais aussi les problèmes de fond que cela soulève, de s'attaquer, évidemment, on est tous d'accord pour baisser la pollution, puisque ce sont les habitants les premières victimes en termes de santé, il y a des morts précoces. Mais il faut savoir que ce sont les plus modestes qui génèrent le moins de pollution,
oui, c'est ce que j'allais
et
vous
c'est
dire,
eux qui risquent d'être pénalisés. Donc c'est pas blanc ou noir, mais c'est, voilà, on donne tous les termes du débat. Et on pose la question de l'égalité, en fait, des,
oui,
citoyens dans la lutte contre le réchauffement climatique, sachant que en 2028, et c'est pas si loin, eh bien pour circuler dans une ZFE, il faudra avoir un véhicule ou hybride ou électrique. Mmh. Donc, changer son véhicule, et la note est extrêmement salée. Les aides à la conversion sont encore trop faibles vu le prix de ces véhicules. Oui. Donc voilà, on expose tout le terme de ce débat, de la mesure, et qui commence à s'appliquer en 6 étapes du 1er juillet jusqu'en 2028, où à partir de 2026, les 31 communes seront concernées par la ZFE.
Mmh. Oui, et puis voilà. Alors, on peut parler aussi quand même d'écologie punitive là-dessus, c'est ce que vous disiez,
oui,
c'est-à-dire que les
terme,
plus pauvres ne pourront pas changer leur voiture, à contrario, là, une personne beaucoup plus riche qui va pouvoir
bien
acheter
sûr,
une voiture qui consomme énormément, mais vu que la voiture sera neuve, elle pourra circuler.
Donc voilà, c'est donc à double tranchant quand même. Voilà, c'est une vraie question de fond, tout à fait.
Allez, j'imagine affaire à suivre dans la Marseillaise.
Oui.
Vous avez rencontré le directeur du Centre international de l'UNESCO sur l'eau, dont le siège, je ne le savais pas, est à Montpellier pour l'interroger sur la situation des ressources en eau.
Oui, tout à fait. Éric Servat donc, dirige ce Centre international UNESCO. Alors, nous avons eu l'idée de l'interviewer, puisqu'il y a de plus en plus d'arrêtés sécheresse qui sont pris par les préfets. Mmh. Et donc, le nombre de communes concernées augmente de semaine en semaine. Donc, ça atteste vraiment d'une situation très tendue en ressources en eau. Donc, on est allé voir spécialiste pour lui demander d'abord si la situation était préoccupante. Et voilà, et de nous expliquer comment, quelles pourraient être les solutions pour mieux préserver la ressource en eau. Mmh. Bon, évidemment, il nous explique que oui, la situation est préoccupante, puisqu'il y a beaucoup d'arrêtés qui sont pris beaucoup plus tôt que d'habitude, en particulier dans le département voisin du Gard. Et en plus, on a devant nous, nous explique-t-il, une période de consommation d'eau importante avec la saison touristique.
Oui.
Puisque, évidemment, le tourisme génère beaucoup d'activités économiques et donc de richesses. Mais, d'un autre côté, il y a aussi les méfaits de l'activité très intensive, notamment concernant la ressource en eau. En automne, il y a des réserves en eau qui peuvent se faire, hein, mais les réserves en eau, avec la sécheresse qui a été quand même prégnante et qu'on ne voit pas forcément l'hiver, mais on a un vrai problème aujourd'hui de recharge de nappes phréatiques. Alors, est-ce que on lui a demandé si les restrictions ponctuelles allait devenir un peu plus pérenne.
Oui.
Alors, il nous a bien expliqué et bien détaillé que, par exemple, 70% de l'eau est utilisée par l'agriculture.
Mmh.
Voilà. On a 20% par les activités économiques hors agriculture et 10% pour les ménages, les citoyens, dans le cadre d'un usage domestique.
D'accord.
Donc, si les marges existent partout, on voit bien que c'est sur le 70% qu'il va falloir agir.
Et est-ce qu'il y a des solutions à ça?
Disons que les solutions, c'est d'aller vers vraiment une mutation, par exemple, trouver des cultures moins gourmandes en eau, donc adaptées avec de nouvelles plantes, ça existe. Il y a aussi l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déperdition en eau,
oui.
On perd beaucoup d'eau, et l'innovation et la technologie peut être capable d'apporter la juste quantité d'eau au bon moment, c'est
d'accord.
Ça qu'il nous dit. Donc il y a aussi côté activité économique hors agriculture, où c'est 20% de la consommation, on sait que l'industrie travaille à une réutilisation plus systématique des ressources en eau,
mmh.
dans ce qu'on appelle l'économie circulaire,
oui.
Pour épargner au maximum la ressource naturelle, afin de la consacrer à l'environnement.
D'accord.
Et surtout à l'adduction d'eau potable. Donc voilà, donc c'est vraiment un entretien extrêmement intéressant où tout le monde peut agir, mais essentiellement, il y a aussi des politiques publiques à impulser.
Oui.
Tous les acteurs professionnels et citoyens et les collectivités locales et l'État doivent se mettre autour de la table pour vraiment se pencher sur ce problème qui n'est pas simplement saisonnier.
Absolument. Allez, on passe au troisième sujet. La Marseillaise revient sur la situation des familles syriennes. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a aussi des réfugiés qui viennent d'autres pays. Des réfugiés installés depuis 3 ans. 3 ans, c'est énorme, dans un bidonville en bordure du quartier de la Mosson. Et on les menace d'expulsion.
Oui, alors bon, c'est... en fait... La solidarité pour les associations que nous avons interrogées, notamment Médecins du Monde, ne doit pas. Il n'y a pas de distinction entre l'origine des réfugiés. Ce sont des réfugiés syriens, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils ont leur titre de, on va dire, de réfugiés. Hein, ils sont pas en attente. Ils ont fui évidemment un pays complètement en guerre et détruit. Et ils sont là, 17 personnes, dont une petite dizaine d'enfants qui vivent depuis 3 ans dans un bidonville, dans des conditions qui sont déplorables. Mmh. Alors, les discussions se font avec la ville de Montpellier, qui, c'est vrai qu'au niveau de la prise en compte des squats, a une politique, on va dire, volontariste et qui va dans le bon sens, selon les associations qui accompagnent les familles. Hein.
Oui.
Mais là, il y a eu une première audience le 5 mai en vue d'une expulsion sous 48 heures, mais au tribunal, la mairie de Montpellier, qui est propriétaire du terrain, avec les associations, ils se sont mis d'accord pour engager un processus de médiation. Mmh. Et donc, ce qui est important, c'est que le 7 juillet, il y a une audience qui est très attendue, où l'enjeu, c'est de voir si on a avancé vers la recherche de ces solutions.
Alors, quelles sont-elles, ces recherches de solutions? Parce que va les laisser dans un bidonville ou on va les loger décemment?
Il faut reloger les gens.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est vrai que vivre dans un bidonville, les personnes, on a aussi interrogé les personnes qui y vivent. Hein, ils disent ils sont réfugiés, ils vivent à Montpellier. Ils réexpliquent pourquoi ils ont quitté leur pays. Ils ont construit eux-mêmes des cabanes. Ils disent que s'ils avaient d'habitation, ils ne dormiraient pas dehors. C'est pas un choix. Et c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour nos familles, pour nos familles et pour nos enfants. Mmh. Donc évidemment, la situation doit être débloquée. Donc tout l'enjeu du 7 juillet, c'est de voir et de continuer à discuter avec la ville sur des solutions de relogement.
Mmh. Surtout que vous l'avez dit, on parle que de 17 personnes avec des enfants.
Oui,
quoi.
Voilà.
C'est pas énorme.
On parle que de 17 personnes, des personnes qui ont le statut de réfugiés, qui ont des enfants et qui sont des adultes, il y a des adultes et des enfants, et qui ne peuvent plus continuer à se doucher avec un seau, et qui ont besoin de vivre dans la dignité, avoir un toit sur une tête, un toit décent sur la tête. Donc il y a une pétition qui a été lancée, n'expulsez pas les réfugiés syriens, logez-les. Donc c'est sur change.org, il s'adresse directement à la mairie de Montpellier.
Oui.
Et donc, on va suivre attentivement ce qui va se passer à l'audience du 7 pour savoir quelles sont les solutions à apporter. Et donc, nous donnerons des nouvelles de ces familles très rapidement à nos lecteurs dans la Marseillaise.
D'accord. La Marseillaise, chaque semaine, fait un grand entretien avec une personnalité. Ce vendredi, c'est Stéphane Rossignol, qui est le maire LR de la Grande Motte. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors, on l'a interrogé sur plusieurs sujets, des sujets brûlants aussi dans la Grande Motte. Il y a, le gros problème des paillotes.
Oui.
Puisqu'il y a les paillotes, si on applique la loi littorale, les paillotes doivent disparaître. Donc, Stéphane Rossignol et, son conseil municipal et d'autres personnes ont discuté avec les représentants de l'État et ils nous expliquent il y a une mission ministérielle plutôt qui a été lancée avec un préfet, un inspecteur général qui sont missionnés pour examiner le sujet des paillotes.
Mmh.
Donc ils les ont rencontrés avec d'autres maires du littoral. Évidemment, ils ont défendu leur point de vue, à savoir le poids économique et symbolique, nous dit-il, des paillotes, qui, pour lui, ont leur place dans le paysage. Donc, bon, évidemment, c'est un sujet à suivre. Pour l'instant, il y a 6 établissements qui sont en place. Oui. La saison a débuté et les paillotes sont ouvertes. Et donc, lui, Stéphane Roussignol nous explique qu'il veut montrer à l'État que le littoral perdrait une part de son attrait, de son image, si ces paillotes disparaissaient. Mmh. Bon, évidemment, nous l'avons interrogé aussi, puisque la Grande Motte, c'est une cité balnéaire, une cité touristique. Évidemment, c'est la satisfaction, parce que c'est un début de saison très, très bon.
Oui.
Il y a évidemment un gros point noir, mais nous l'avons déjà soulevé dans la Marseillaise, c'est l'absence du personnel saisonnier.
Et oui.
Voilà, parce que la Grande Motte a même organisé des journées de recrutement où il y a eu très très peu de monde. Donc nous avions interrogé à l'époque notamment le syndicat CGT qui expliquait que bon, il y a des conditions de travail, de salaire, et puis la pandémie est passée par là, les personnes saisonniers se sont retrouvés sans rien, se sont reconvertis et ne vont plus vers ces métiers difficiles. Donc il y a une révolution aussi copernicienne à faire de la part des professionnels et du patronat de l'hôtellerie-restauration pour proposer des métiers, des postes bien payés, avec le problème aussi du logement que nous avions soulevé. Donc évidemment, c'est la grande ombre au tableau pour le maire de la Grande Motte, mais les solutions peuvent exister si on améliore les conditions de travail.
D'accord.
Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de l'interroger aussi sur les résultats des législatives, puisque c'est un maire les Républicains. Donc il le répète, il dit que l'Hérault a toujours été une terre de mission pour la droite. Il estime que les candidats LR n'avaient pas de chance. C'est vrai qu'à l'échelle de l'Occitanie, il y a seulement 2 députés LR qui ont été élus, une échelle sur 13 départements. Mais il n'est pas surpris.
Par contre, il doit être surpris au niveau national, parce qu'il n'y a pas eu un gros score non plus.
Mais exactement. Mais disons que il emploie le terme, LR au niveau national a sauvé les meubles en n'étant pas balayé. C'est vrai qu'ils ont 65 députés et il estime, là c'est intéressant, qu'ils vont probablement devenir une véritable charnière de l'Assemblée nationale.
Mmh.
En étant souvent sollicité par le gouvernement.
Et oui.
Donc en ce moment il y a les élections, il y a eu cette semaine l'élection
de la présidente de
l'Assemblée nationale. Il y a des élections à la tête des commissions et évidemment après le Parlement va rentrer dans le dur et on aura la semaine prochaine une actualité politique assez forte puisqu'il va y avoir le discours de politique générale de la Première ministre.
Mmh.
Voilà, donc à suivre aussi comment les députés d'ici vont agir au sein de l'Assemblée nationale.
Et c'est à retrouver, bien sûr, dans la Marseillaise. Dans
oui,
un
tout
autre registre, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré vous a fait l'amitié d'une rencontre pour évoquer 2 événements dont son actualité. Alors déjà,
qui est
Pierre-Emmanuel Barré? Moi, je ne le connais pas personnellement.
Mais on l'a rencontré. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'entretien. C'est Hugo Tortel qui a fait l'entretien.
Oui.
Donc, c'est vrai que pour les amateurs d'humour très, très grinçant et déjanté, on peut retrouver Pierre-Emmanuel Barré dans un festival fort sympathique qui s'appelle la Route des Vannes.
Oui.
En fait, ça se déroule du 1er au 9 juillet, donc très 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 bientôt là, dans des domaines viticoles.
Mmh.
Donc voilà, ce sont des humoristes qui vont se produire, peut-être pas au milieu des vignes, mais en tout cas dans le domaine. Et donc ça c'est déjà sympathique. Mais moi j'ai découvert que Pierre-Emmanuel Barré avait posé ses valises pas très loin d'ici. dans les Cévennes, à Anduze, où il vit depuis 5 ans. Donc c'est un Cévenol d'adoption, un Occitan d'adoption, et il monte son propre festival. Donc il aura lieu là début août, du 4 au 6 août, où il va y avoir un mélange évidemment d'humour et aussi de musique.
D'accord.
Donc évidemment on l'a interrogé sur beaucoup de choses, notamment la situation politique. Bon, il essaye un peu maintenant de se prendre un peu de recul là-dessus. Il travaille sur un nouveau projet dont il n'a pas voulu nous dire grand-chose puisque c'est encore top secret, mais il va faire bientôt, en 2023, il sera au Zénith avec deux ou trois dates, je crois. Et voilà, donc il prépare tout ça. Et donc c'est un garçon sympathique qui nous a fait le plaisir d'une rencontre sous le signe de l'humour, et nous en avons bien besoin.
Alors, un sujet un peu plus grave, mais visiblement, il y a des solutions. Le changement climatique qui s'accélère, donc accentue la sécheresse, on en a parlé. Mais il y a aussi d'autres phénomènes, comme des orages très violents, accompagnés de grêles destructrices. Et apparemment, il y a des solutions là-dessus.
Oui, alors en fait, en 2020, les vignerons de l'AOC l'Irak, donc c'est dans le Gard, c'est une commune de Roquemort, l'Irak, donc Saint-Géniès de Comolas. Donc les vignerons se sont en 2020, ils ont eu 80% de leur vigne, enfin du raisin qui a été détruit, et donc par un fort épisode de grêle. Et donc ils se sont organisés pour installer une nouvelle technique. Ce sont des générateurs anti-grêle.
Alors ça marche comment?
Alors comment ça marche? Ce sont des engins qui permettent de diminuer la taille des grêlons.
D'accord.
Et ils travaillent avec une association qui s'appelle Prévigrêle, qui les aide d'un point de vue technique et avec le matériel, avec un prévisionniste météo qui prévient d'un éventuel épisode. Hein.
Oui.
Et donc c'est un procédé qui permet de diminuer de 60% les risques. Donc en fait, le produit utilisé, la solution utilisée, c'est le diodure d'argent.
Oui.
C'est donc une solution qui était à vendre dans les pétards qu'ils envoyaient, des sortes de fusées. Mais bon, ce procédé maintenant est interdit parce qu'il est très dangereux.
Mm-hmm.
Donc, en fait, maintenant, il y a une sorte d'engin, de machine, où le diodure d'argent va être propulsé à... Il y a 200 milliards de particules par seconde qui sont envoyées dans l'atmosphère.
Ouais.
Et ça va provoquer une réaction chimique dans l'atmosphère qui va détruire les grêlons et les faire diminuer de taille.
D'accord.
Et donc, évidemment, ça diminue autant l'impact sur les vignes et sur les habitations aussi, hein, puisqu'on a vu des épisodes de grêle ultra-violents avec des toitures emportées. Enfin, c'était dantesque.
Ouais.
Et en fait... ils l'ont déjà utilisé et ça fonctionne. Hein. Ces vignerons estiment qu'ils ont réussi à sauver des récoltes grâce à ce procédé. Ils se sont fédérés parce qu'évidemment, je n'ai pas les prix en tête, mais c'est quand même un investissement.
Oui.
Mais il faut savoir qu'ils préfèrent investir dans ce procédé plutôt que de prendre une assurance, parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas assurés, parce que c'est extrêmement cher, une assurance.
Et oui.
Il y a un vigneron qui nous expliquait que c'était 10 000 euros l'année, alors qu'il fait son chiffre d'affaires, il est de 180 000 euros.
D'accord.
C'est considérable, et donc il préfère se fédérer et se fédérer avec une technique pour éloigner ou diminuer l'impact de la grêle.
D'accord.
Donc ça nous semblait intéressant de parce que en plus c'est à la fois une association, des vignerons, un prévisionniste météo, donc il y a toute une chaîne qui se met en place pour éviter la perte du travail de toute une année, quoi.
Oui, et puis c'est un sujet, on l'a vu, qui fait vraiment actualité. Autre question, moi, qui me vient à l'esprit, alors peut-être qu'il il vous en a pas parlé, mais est-ce que ce diodure d'argent, justement, ne pourra pas générer d'autres problèmes en retombant sur les habitations? Il n'y a pas de souci là-dessus?
Il faut vérifier. C'est vrai que j'ai pas la réponse.
D'accord.
Je sais pas si c'est... Non, je pense que ça doit pas être... Je m'avance peut-être, hein. Mais a priori, enfin, après sur les vignes, il y a d'autres problèmes, puisqu'il y a quand même l'objectif aussi de moins utiliser de produits phyto,
oui.
Ce qu'on appelle, enfin, ce que l'industrie phytosanitaire, en fait, ce sont des pesticides.
Absolument,
voilà.
Oui, pour l'on
donc, y
parle vraiment.
Donc, il y a des efforts aussi qui sont faits, il y a des efforts sur le type de cépage aussi, donc il y a tout un travail quand même de la part des vignerons, où c'est quand même une part importante de l'agriculture dans l'Hérault, dans le Gard et en Occitanie en général, et donc il faut aussi qu'ils évoluent avec le réchauffement climatique qui provoque des catastrophes, mais et aussi une sécheresse qui fait que il faut parfois changer les cépages et réfléchir à tout ça.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Françoise. Je rappelle que tous ces sujets sont à lire et à relire, bien sûr, à partir de vendredi en kiosque.
Oui, on n'a pas tout dit, hein. Il y a encore beaucoup de choses
et
dans
oui,
le journal.
J'invite les auditeurs à aller aussi s'abonner sur le www.lamarseillaise.fr, hein, c'est bien ça,
.fr. Oui, tout à fait.
Pour avoir des contenus additionnels, un journal vraiment à lire et à lire tous les jours et toutes les semaines.
Merci Divergence, merci Bruno.
Merci Françoise, à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.